Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le président Joko Widodo souhaite que les travailleurs migrants indonésiens ou BMI rapportent des éléments qui rendent difficile. La transformation de radio est nécessaire pour garder les auditeurs. La signature du protocole d'entente entre l'Indonésie et Hong Kong sur la protection des travailleurs migrants indonésiens. La lutte contre des canulars jawara pousse la société des médias sociaux à être le sujet de la loi. Le statut de Jokowi au musée de Madame Tussaud à Hong Kong. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a souligné qu'il n'y a plus des éléments qui rendent difficile et entravent le travail indonésien à l'étranger. S'il y a des éléments qui rendent difficile et entravent le travail indonésien à l'étranger, il doit rapporter immédiatement aux autorités. Cela a été affirmé par le président Joko Widodo pour répondre aux plaintes des travailleurs migrants indonésiens à Hong Kong sur la carte de main d'œuvre à l'étranger dans sa rencontre avec des milliers de travailleurs migrants indonésiens à Asia World Expo à Hong Kong dimanche le 30 avril 2017. Selon le président, il y a encore des personnes qui abusent de leur pouvoir afin d'obtenir des avantages. Par conséquent, le président Joko Widodo a présenté ses excuses à tous les travailleurs migrants indonésiens et a promis d'améliorer et corriger les problèmes qui touchent les travailleurs migrants indonésiens. Le chef de l'Agence nationale pour le placement et la protection des travailleurs indonésiens, Nusron Wahid, a dit « Si les travailleurs migrants indonésiens voulaient retourner en Indonésie, ils ne devaient pas utiliser la carte de travailleur à l'étranger ». Depuis 2015, au début du gouvernement du président Joko Widodo, cette carte n'est plus nécessaire. Pour ceux qui prennent des congés, ils ont besoin de visa de travail et de contrat de travail. Soutenu par environ 4 milliards d'auditeurs à l'échelle mondiale, la radio devrait rester en confiance comme partie des médias intéressants. C'est ce qu'a affirmé Ismail Rahim, développeur de la technologie de la radio numérique, lors d'un atelier sur la transformation de radio numérique dans l'Internet qui a eu lieu lundi à Jakarta dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017. Il a déclaré « Les stations de radio en Indonésie étaient soutenues de 100 millions d'auditeurs devraient garder son statut comme grande organisation en subissant une transformation en conformité avec le temps. » N'oubliez pas le nombre de nos publics, il y a 100 millions de spectateurs, c'est une grande affaire. Il y a actuellement 100 millions d'auditeurs de Radio Indonésie. Nous sommes le grand joueur, la grande organisation et ces auditeurs sont très importants. Les annonceurs commencent à passer à d'autres endroits. Pourquoi ? Parce que nous devons essayer de transformer, adopter la technologie la plus récente. Ismail Rahim a expliqué qu'afin de maintenir son public, l'Association nationale de radio privée d'Indonésie, PRSSNI, a développé Suara, un outil professionnel permettant à la radio de devenir un acteur actif dans le domaine numérique. Cette technologie comprend l'amélioration du service de diffusion de musique en ligne qui, jusqu'à présent, est géré par plusieurs services de diffusion de musique en dehors de la radio dans plusieurs pays. Le président Joko Widodo a rendu visite le directeur général de la région administrative spéciale de Hong Kong, Leung Chun-ying, au bureau de la région administrative de Hong Kong. Lors de sa visite, le chef de l'État a assisté à la signature d'un protocole d'entente entre le gouvernement indonésien et celui de Hong Kong. Joko Widodo a déclaré que le protocole d'accord mettait l'accent sur la protection des travailleurs migrants indonésiens à Hong Kong. Surtout nos travailleurs migrants, mais ici à Hong Kong, nous voyons la protection est très bonne. Mais nous demandons le protocole d'accord, il y a un accord afin de protéger nos travailleurs migrants pour le meilleur. Il y a deux accords qui ont été signés, à savoir sur la signature de l'emploi et la culture. La signature d'un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de l'emploi a été faite par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et le ministre du Travail de Hong Kong, Stephen Sui. Et la signature d'un protocole d'accord dans le domaine de la culture a été signée par le ministère indonésien de l'Éducation et de la Culture, Muhajir Effendi, et le ministre de l'Intérieur de Hong Kong, Lau Kong Wah. Le président du présidium du réseau de journalistes anti-hoax Jawara, Agus Sudibyo, a déclaré que les grandes entreprises de médias sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube devraient être responsables de supprimer la propagation d'informations fausses en Indonésie. Dans le séminaire sur la lutte contre les canulars et le renforcement des cybermédias en marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017, qui s'est tenue le 1er mai à Jakarta, Agus Sudibyo a déclaré que, conformément à la loi sur l'information et les transactions électroniques, la machine de médias sociaux est une partie responsable sur la propagation de canulars. Il a déclaré qu'il poussait la société de médias sociaux à être un sujet de droit qui est responsable de la lutte contre le canular en Indonésie. À mon avis, la percée juridique est de ne pas laisser les sociétés de médias sociaux globaux devenir le cavalier libre de la démocratie numérique en Indonésie. Ils peuvent faire leurs affaires ici. Ils peuvent obtenir la publicité ici. Mais ils devraient également être responsables dans le traitement des canulars. Comment plus tard nous avons parlé plus de détails. Pour pouvoir lutter contre la propagation des canulars chez les gens, Agus Sudibyo invite toute la partie à faire ensemble un mouvement moral pour demander à tous les médias conventionnels en Indonésie de revenir au journalisme honnête et civilisé. Il a également souligné l'importance de l'effort de l'alphabétisation des nouveaux médias. Agus a déclaré que cet effort pouvait être fait par le gouvernement en intégrant la nouvelle littéralité médiatique qui fait partie du programme national d'éducation. Cela peut donner l'éducation à la communauté pour pouvoir utiliser les médias sociaux de manière plus judicieuse et plus attentive. La figure du président Joko Widodo sous la forme de la statue de cire est présente officiellement au musée de Madame Tussaud à Hong Kong, qui pourrait être la promotion du tourisme pour l'Indonésie. C'est ce qu'a affirmé le président Joko Widodo lors de sa visite au musée de Madame Tussaud à Hong Kong lundi, par un communiqué de presse du chef du bureau de presse de médias et de l'information du secrétariat présidentiel B. Mahmoudin, répondant à la présence de la figure de sa statue de cire d'être la promotion du tourisme indonésien. Comme cité par Antara à Jakarta, le musée de Madame Tussaud affiche la statue de cire du président Joko Widodo parce qu'il y a beaucoup de demandes à la fois des visiteurs directement ou d'une enquête qu'ils ont fait. La statue de cire du président Joko Widodo est la deuxième figure du président de la République d'Indonésie qui est spécialement créée par Madame Tussaud de Hong Kong après la figure du premier président Sukarno. Les deux sont placés adjacents. Ce réditeur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Ce réditeur, voici donc le commentaire. Et en pour titre, accélérer l'éducation égale et qualifiée. Chaque 2 mai, l'Indonésie célèbre la Journée nationale de l'éducation. Ce jour coïncide avec la naissance du héros indonésien Ki Hajar Dewantara, qui est né à Yogyakarta en 1899. Ki Hajar Dewantara, dont le vrai nom est Raden Mas Suwardi Suryaningrat, a lutté vigoureusement pour le sort des indigènes indonésiens à l'époque d'administration coloniale néerlandaise pour qu'ils aient pour obtenir une éducation décentes. Grâce à son travail acharné et ses efforts pour initier l'éducation dans le pays, Kihajar Dewantara est nommé comme père de l'éducation nationale en Indonésie sur la base du décret présidentiel en 1959. Et l'anniversaire de Kihajar Dewantara a été désigné comme la journée nationale de l'éducation en Indonésie. L'éducation est un des facteurs qui détermine la qualité des ressources humaines. Plus élevée qualité de l'éducation de nation, plus élevée qualité des ressources humaines. Une façon d'améliorer la qualité des ressources humaines est d'accélérer la distribution de l'éducation conformément au thème de la journée nationale de l'éducation cette année, à savoir l'accélération de l'éducation égale et qualifiée. L'équité, en particulier la répartition égale du droit à l'éducation, est l'un des problèmes en Indonésie. Pour résoudre ce problème, le gouvernement d'Indonésie lance progressivement le programme d'éducation obligatoire qui a débuté en 1984 avec le programme d'éducation obligatoire de 6 ans et s'est poursuivi en 1989 avec le programme d'éducation obligatoire de 9 ans. Dans ce programme, le gouvernement exige que tous les enfants indonésiens âgés de 7 à 12 ans et de 12 à 15 ans aient terminé l'enseignement de base avec le programme de 6 ans à l'école primaire et 3 ans à l'école secondaire ou SMP. Pour le faire, depuis juillet 2005, le gouvernement a lancé un programme d'assistance opérationnelle scolaire ou BOS qui a joué un rôle important dans l'accélération de la réalisation du programme d'éducation obligatoire de 9 ans. Le gouvernement estime que le programme d'éducation obligatoire de 9 ans n'est pas suffisant pour améliorer la qualité des ressources humaines de l'Indonésie. À cette fin, depuis juin 2015, le gouvernement indonésien, sous le président Joko Widodo, a lancé le programme d'éducation obligatoire de 12 ans, dans lequel tous les enfants indonésiens âgés de 7 à 18 ans ont droit et sont tenus d'obtenir une éducation jusqu'au niveau du lycée. Mais pour le réaliser, ce n'est pas facile. Il faut avoir beaucoup d'argent et de l'aide de tous les éléments de la société. Le gouvernement a fait des efforts pour augmenter chaque année le budget de l'éducation. En 2006, le budget de l'éducation était de 175 trillions rupiah. En 2016, il a augmenté à 40 trillions rupiah. La Constitution 1945 mentionne également que l'État doit affecter au moins 20% du budget de l'État ou APBN pour l'éducation. L'augmentation du budget de l'éducation ne suffit pas à réaliser une éducation égale et qualifiée. Par conséquent, il faut nécessiter une assistance de tous les éléments de la société, tels que le gouvernement central, le gouvernement local et le secteur privé. Avec espoir, avec l'aide de tous les éléments de la société et l'élan de la Journée nationale de l'éducation, une éducation égale et qualifiée peut être réalisée immédiatement. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 22 mai, la Journée nationale de l'éducation. Le 2 mai 1889, l'anniversaire de Ki Hajar Dewantara, célébré comme la Journée nationale de l'éducation. Cette journée est synonyme de la figure du père de l'éducation nationale, à savoir Raden Mas Suwardi Suryo Diningrat, ou mieux connu comme Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara connu pour avoir osé opposer au gouvernement politique de l'éducation néerlandais à ce moment-là, ce qui ne permet aux enfants nés aux Pays-Bas ou les riches qui peuvent obtenir en banque d'éducation. Sa critique contre la politique du gouvernement colonial a lui fait être exilé aux Pays-Bas. Et ensuite, il a fondé l'établissement d'enseignement appelé Taman Siswa après le retour à l'Indonésie. Il a été nommé ministre de l'Éducation, l'Enseignement et de la Culture indonésien dans le premier cabinet de la République d'Indonésie. Pour ses services dans le domaine de l'éducation, il a obtenu le titre de père de l'éducation d'Indonésie. Sur la base du décret présidentiel numéro 305, l'année 1959, du 28 novembre 1959, l'anniversaire de Ki Hajar Dewantara, le 2 mai désigné comme la Journée nationale de l'éducation. Le 2 mai 1964, Cut Nhắc Đến désigné comme le héros national. Cut Nhắc Đến a lutté contre les Néerlandais pendant la guerre d'Aceh avec Tengku Umar, qui est aussi son mari. Tengku Umar est mort quand il a attaqué Meulabo le 11 février 1999, de sorte que le Cut Nhắc Đến a lutté seul à l'intérieur de Meulabo avec ses troupes. Cut Nhắc Đến était déjà vieille et malade. Ses troupes ont été appelées Pang Laot à rapporter son existence. Elle a finalement été arrêtée et amenée à Bandar Aceh. Là-bas, elle a été traitée et guérie. Sa présence ajoute l'esprit du peuple d'Aceh. Cut Nhắc Đến continue à revivre l'esprit des combattants d'Aceh qui n'ont pas été capturés. Par conséquent, il est isolé à Sumedang, Jawa-Ouest, jusqu'à sa mort le 6 novembre 1908 et a été enterré à Montagne Puyuh, Sumedang. Cut Nhắc Đến est désigné comme un héros national de l'Indonésie le 2 mai 1964, basé sur le décret présidentiel numéro 106 l'année 1964. Le 2 mai 1994, Nelson Mandela a remporté les premières élections multiraciales en Afrique du Sud. Ceci est la victoire de Mandela après avoir été emprisonné en 1964 et 1990. Il a lutté contre l'égalité des droits avec les Blancs. Il est aussi la victoire des Noirs d'Afrique du Sud après avoir été victime d'intimidation dans le système de l'apartheid. Environ 23 millions de voix, le Congrès national africain de Nelson Mandela a remporté 62,6% des voix. Et le plus proche rival du Parti national, le président sud-africain, FW de Klerk, gagnant 20,4% des voix. Et le Parti de la Liberté, Inkatha, dirigé par Mangosuthu Buthelezi, qui représente la plus grande tribu dans ce pays, a gagné 10,5%. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée Média mainstream vs médias sociaux. Pour commémorer la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai, la Voix de l'Indonésie a organisé de nouveau un forum diplomatique tenu à Jakarta le 27 mai 2017 avec le thème Média mainstream vs médias sociaux. Dans le forum diplomatique, on a discuté des questions internationales actuelles en présentant des conférenciers, entre autres les ambassadeurs des pays voisins, le gouverneur et les parties prenantes. Et cette fois, les conférenciers dans le forum diplomatique et le ministre de la Communication et de l'Information, M. Rudiantara, l'ambassadeur d'Australie en Indonésie, Paul Gregson, le conseiller pour la communication et l'information de l'UNESCO Jakarta, M. Ming Kwok Lim, le vice-président du Conseil indonésien de la presse, M. Ahmad Johar, et l'ambassadeur de la communauté anti-diffamation d'Indonésie, Mme Anita Wahid. Le ministre Rudiantara a déclaré que les médias mainstream et les médias sociaux possèdent une différence fondamentale dans le processus de l'écriture des nouvelles et quand les informations sont livrées. Selon le ministre, les médias mainstream possèdent un mécanisme standard étant plus scientifique avec des éléments de la vérité et des faits tels que la vérification.
Kalau media mainstream, ya, dalam konteks kode etik jurnalistik itu ada.
Les médias mainstream dans le cadre du code d'éthique journalistique doivent avoir couverture des deux côtés. Cela veut dire qu'il y a le processus, mais les médias sociaux n'ont plus le processus. Le problème est que nous avons les médias traditionnels ou mainstream, par exemple la presse écrite, les médias électroniques en ligne et les médias sociaux. Donc, c'est les médias mainstream que l'on appelle qui est en réalité. Disent les médias plus conventionnels venus d'abord que d'autres médias. Concernant des canulars ou des fausses nouvelles, le ministre Rudiantara a déclaré que cette question était le problème national et mondial. Cependant, l'ambassadeur d'Australie en Indonésie, M. Paul Gregson, qui a également participé au forum diplomatique, a déclaré que les médias sociaux deviennent l'instrument le plus populaire dans le monde pour fournir l'expression. Il est très friand des médias sociaux, mais selon Paul Gregson, la chose la plus importante est que tous les utilisateurs de médias sociaux devraient avoir la responsabilité de ce qu'il a dit.
I'm a fan of social media. I think it's very important that people.
Je suis fan des médias sociaux et je pense qu'il est important pour les gens de la communauté d'exprimer leur point de vue. C'est une façon pour les gens de participer aux activités communautaires dans les interactions sociales. Mais nous n'attendons pas parler de la responsabilité qui vient des utilisateurs des médias sociaux. Je pense qu'il est important pour les gens de comprendre que quand ils participent à cette conversation à travers les médias sociaux, il y a une responsabilité sur les autres personnes dans les médias sociaux. L'ambassadeur d'Australie en Indonésie a également expliqué que les utilisateurs sociaux devraient vraiment savoir que ce qui a été dit est fondé sur des faits et non des mensonges. Par conséquent, il a demandé au public, notamment les utilisateurs des médias sociaux, à réfléchir avant de diffuser les informations ou l'écriture. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le président Joko Widodo a souligné qu'il n'y a plus des éléments qui rendent difficile et entravent le travail indonésien à l'étranger. S'il y a des éléments qui rendent difficile et entravent le travail indonésien à l'étranger, il doit rapporter immédiatement aux autorités. Cela a été affirmé par le président Joko Widodo pour répondre aux plaintes des travailleurs migrants indonésiens à Hong Kong sur la carte de main-d'œuvre à l'étranger dans sa rencontre avec des milliers de travailleurs migrants indonésiens à Asia World Expo à Hong Kong dimanche le 30 avril 2017. Selon le président, il y a encore des personnes qui abusent de leur pouvoir afin d'obtenir des avantages. Par conséquent, le président Joko Widodo a présenté ses excuses à tous les travailleurs migrants indonésiens et a promis d'améliorer et corriger les problèmes qui touchent les travailleurs migrants indonésiens. Le chef de l'Agence nationale pour le placement et la protection des travailleurs indonésiens, Nusron Wahid, a dit « Si les travailleurs migrants indonésiens voulaient retourner en Indonésie, ils ne devaient pas utiliser la carte de travailleur à l'étranger ». Depuis 2015, au début du gouvernement du président Joko Widodo, cette carte n'est plus nécessaire. Pour ceux qui prennent des congés, ils ont besoin de visas de travail et de contrats de travail. Soutenu par environ 4 milliards d'auditeurs à l'échelle mondiale, la radio devrait rester en confiance comme partie des médias intéressants. C'est ce qu'a affirmé Ismail Rahim, développeur de la technologie de la radio numérique, lors d'un atelier sur la transformation de radio numérique dans l'Internet qui a eu lieu lundi à Jakarta dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017. Il a déclaré « Les stations de radio en Indonésie étaient soutenues de 100 millions d'auditeurs devrait garder son statut comme grande organisation en subissant une transformation en conformité avec le temps. N'oubliez pas le nombre de nos publics. Il y a 100 millions de spectateurs, c'est une grande affaire. Il y a actuellement 100 millions d'auditeurs de Radio Indonésie. Nous sommes le grand joueur, la grande organisation et ses auditeurs sont très importants. Les annonceurs commencent à passer à d'autres endroits. Pourquoi? Parce que nous devons essayer de transformer, adopter la technologie la plus récente. Ismaël Rahim a expliqué qu'afin de maintenir son public, l'Association nationale de radio privée d'Indonésie, PRSSNI, a développé Suara, un outil professionnel permettant à la radio de devenir un acteur actif dans le domaine numérique. Cette technologie comprend l'amélioration du service de diffusion de musique en ligne qui, jusqu'à présent, est géré par plusieurs services de diffusion de musique en dehors de la radio dans plusieurs pays. Le président Joko Widodo a rendu visite le directeur général de la région administrative spéciale de Hong Kong, Lung Chun-ying, au bureau de la région administrative de Hong Kong. Lors de sa visite, le chef de l'État a assisté à la signature d'un protocole d'entente entre le gouvernement indonésien et celui de Hong Kong. Joko Widodo a déclaré que le protocole d'accord mettait l'accent sur la protection des travailleurs migrants indonésiens à Hong Kong. Surtout nos travailleurs migrants, mais ici à Hong Kong, nous voyons la protection est très bonne. Mais nous demandons le protocole d'accord, il y a un accord afin de protéger nos travailleurs migrants pour le meilleur. Il y a deux accords qui ont été signés, à savoir sur la signature de l'emploi et la culture. La signature d'un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine de l'emploi a été faite par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et le ministre du Travail de Hong Kong, Stephen Sui. Et la signature d'un protocole d'accord dans le domaine de la culture a été signée par le ministère indonésien de l'Éducation et de la Culture, Muhajir Effendi, et le ministre de l'Intérieur de Hong Kong, Lau Kong Wah. Le président du présidium du réseau de journalistes anti-hoax Jawara, Agus Sudibyo, a déclaré que les grandes entreprises de médias sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube devraient être responsables de supprimer la propagation d'informations fausses en Indonésie. Dans le séminaire sur la lutte contre les canulars et le renforcement de cybermédia en marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017, qui s'est tenue le 1er mai à Jakarta, Agus Sudibyo a déclaré que, conformément à la loi sur l'information et les transactions électroniques, la machine de médias sociaux est une partie responsable sur la propagation de canulars. Il a déclaré qu'il poussait la société de médias sociaux à être un sujet de droit qui est responsable de la lutte contre le canular en Indonésie. À mon avis, la percée juridique est de ne pas laisser les sociétés de médias sociaux globaux devenir le cavalier libre de la démocratie numérique en Indonésie. Ils peuvent faire leurs affaires ici. Ils peuvent obtenir la publicité ici, mais ils devraient également être responsables dans le traitement des canulars. Comment plus tard nous avons parlé plus de détails, pour pouvoir lutter contre la propagation des canulars chez les gens, Agus Sudibyo invite toute la partie à faire ensemble un mouvement moral pour demander à tous les médias conventionnels en Indonésie de revenir au journalisme honnête et civilisé. Il a également souligné l'importance de l'effort de l'alphabétisation des nouveaux médias. Agus a déclaré que cet effort pouvait être fait par le gouvernement en intégrant la nouvelle littéralité médiatique qui fait partie du programme national d'éducation. Cela peut donner l'éducation à la communauté pour pouvoir utiliser les médias sociaux de manière plus judicieuse et plus attentive. La figure du président Joko Widodo sous la forme de la statue de cire est présente officiellement au musée de Madame Tussauds à Hong Kong, qui pourrait être la promotion du tourisme pour l'Indonésie. C'est ce qu'a affirmé le président Joko Widodo lors de sa visite au musée de Madame Tussauds à Hong Kong lundi par un communiqué de presse du chef du bureau de presse de médias et de l'information du secrétariat présidentiel B. Mahmoudin, répondant à la présence de la figure de sa statue de cire d'être la promotion du tourisme indonésien. Comité par Antara à Jakarta, le musée de Madame Tussaud affiche la statue de cire du président Joko Widodo parce qu'il y a beaucoup de demandes à la fois des visiteurs directement ou d'une enquête qu'ils ont fait. La statue de cire du président Joko Widodo est la deuxième figure du président de la République d'Indonésie qui est spécialement créée par Madame Tussaud de Hong Kong après la figure du premier président Sukarno. Les deux sont placés adjacents. Serditar, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonjour à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel et pour le titre Tradition Hading Mulung. Donc restez toujours avec nous, le service mondial de la République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, l'île Alor se trouve à l'est de Flores, en province Nusa Tenggara Est. Alor est une des 92 île le plus éloigné en Indonésie car elle confine avec Timor-Leste et le détroit Ombay dans le sud. En plus d'être riche en art et la culture, cette île est également connue pour ses richesses sous-marines. Alors ne soyez pas surprise si Alors possède 50 points de plongée qui sont attendus à l'île Pantar. La beauté sous-marine d'alors jusqu'à maintenant reste durable. En effet, la population locale tente de la maintenir avec une sagesse locale appelée la tradition Hading Mulung. Hading Mulung est la tradition de la communauté Baranusa à Alor, Nusa Tenggara de l'Est. C'est la tradition d'interdire de pêcher les poissons et les autres fruits de mer à une certaine zone et période. La tradition qui existe il y a des centaines d'années est une forme de sagesse locale qui est capable de préserver le monde sous-marin de l'exploitation excessive. Dans la langue locale, Hading Mulung veut dire mettre en place des signes d'interdiction dans une certaine période. Dans une zone marquée interdite, les gens ne devraient pas y pêcher des poissons. En dehors de cette zone, le public est possible de pêcher. En lançant la tradition Hading Mulung, la population locale souhaite d'être capable de récolter les fruits de mer et faire la meilleure pêche. La tradition Hading Mulung était une voie lancée par la communauté Baranusa, alors ensemble avec WWF d'Indonésie ou World Wide Fund de l'Indonésie, le 30 octobre 2016, la tradition Hading Mulung est caractérisée par la procession traditionnelle en organisant une prière. Le sang de Sèvres a ensuite été versé dans la zone interdite dans le cadre de la procession. Les zones de couverture de Hading Mulung sont dans le sud, l'est et l'ouest de l'île Lapang d'une superficie totale de 146 hectares, qui est déterminé par l'étude de plusieurs universités en examinant les conditions sociales et de la mer. Après la tradition Hading Mulung, un an plus tard, précisément le 30 octobre 2017, hoba mulung u l'ouverture d'une région interdite sera mise en œuvre. Quand hoba mulung, les gens Baranoussa sont autorisés à prendre des fruits de mer dans la banque de poissons qui sont déjà collectés pendant une année. La pêche doit utiliser des engins de pêche qui ne gênent pas la préservation sous-marine. D'habitude, pendant hoba mulung, la majorité des gens qui travaillent comme pêcheurs auront de nombreux poissons de la plus haute qualité. Une telle tradition comme hading mulung est en fait aussi connue dans certaines régions en Indonésie. Telles qu'en Papouasie, la banque de poissons avec la détermination de la région d'interdiction est appelée sasi. Chers touristes et chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidèle attention. À demain.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous guide de parler indonésien. Le sujet pour aujourd'hui est belajar ke luar negeri. Je répète, belajar ke luar negeri ou en français, étudier à l'étranger. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Belajar. Belajar. En français, étudier ou apprendre. Luar negeri. Luar negeri. En français, étranger. Ingin. Ingin. En français, vouloir. Belajar. Belajar. En français, étudier ou apprendre. Kemana. Kemana. En français, où. Memutuskan. Memutuskan. En français, décider. Saran. Saran. En français, suggestion. Apa. Apa. En français, quoi. Melukis. Melukis. En français, peindre. Karena. Karena. En français, parce que. Kecil. Kecil. En français, petit. Impian. Impian. En français, rêve. Menjadi. Menjadi. En français, devenir. Pelukis. Pelukis. En français, peintre. Perancis. Perancis. En français, France. Pertimbangkan. Pertimbangkan. En français, considérer. Maintenant, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre belajar ke luar negeri ou en français étudier à l'étranger. Et comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. C'est une conversation entre Rudy A et Budi B chez Rudy. A. Saya ingin belajar ke luar negeri. Saya ingin belajar ke luar negeri. En français, je veux étudier à l'étranger. Kamu mau belajar ke mana? Kamu mau belajar ke mana? en français. Vous allez apprendre où? Saya belum memutuskan. Saya belum memutuskan. En français, je n'ai pas décidé. Apakah kamu ada saran? Apakah kamu ada saran? En français, avez-vous des suggestions? B. Kamu ingin belajar apa? Kamu ingin belajar apa? En français, vous voulez apprendre quoi? A. Saya ingin belajar melukis. Saya ingin belajar melukis. En français, je veux apprendre à peindre. B. Mengapa kamu ingin belajar melukis? Mengapa kamu ingin belajar melukis? En français, pourquoi vous voulez apprendre à peindre? A. Karena dari kecil, impian saya adalah ingin menjadi pelukis. Karena dari kecil, impian saya adalah ingin menjadi pelukis. En français, parce que dès que j'étais petite, mon rêve était de devenir peintre. B. Menurut saya, bila kamu ingin belajar melukis, sebaiknya pergi belajar ke Perancis. Menurut saya, bila kamu ingin belajar melukis, sebaiknya pergi belajar ke Perancis. En français, à mon avis, si vous voulez apprendre à peindre, vous allez mieux étudier en France. A. Terima kasih atas saranmu. Terima kasih atas saranmu. En français, nous vous remercions de votre suggestion. Akan saya pertimbangkan. Akan saya pertimbangkan. En français, je vais la considérer. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien de la Voix de l'Indonésie pour ce soir. Merci de votre fidélité et à demain.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour cette édition, je vous présente un chanteur Vidi Aldiano. Bon, serviteur, voici sa première chanson intitulée « Lac dans la nuit ». Bonne écoute.
Bahagia telah kulakukan untukmu demi mengharapkan cintamu. Kini ku bagai menanti datangnya pelangi di malam hari yang sepi. Hatimu terpenjara dan tak kuasa ku membukanya. Walau seluruh dayaku ingin bersamamu, kunci hatimu patah tak terganti.
kuasaku membukanya, walau seluruh dayaku ingin bersamamu. Kunci hatimu patah tak terganti.
Seritar, c'était la chanson de Vidi Aldiano intitulée L'Arc dans la nuit. Cette chanson devient un titre du premier album de Vidi Aldiano qui est sorti en 2008. Comme le titre L'Arc dans la nuit raconte le sacrifice pour obtenir l'amour d'un homme qui aimait, tous les efforts d'obtenir l'amour de sa petite amie comme une personne attend l'arrivée de l'arc dans la nuit ou quelque chose impossible à cause de son cœur qui était verrouillé. Cet album contient 11 chansons, dont 2 sont de vieilles chansons réarrangées. Les 2 chansons sont Nuansa Bening de Kina Nasution et Cinta Jangan Kau Pergi qui étaient popularisées par une chanteuse malaise, Sheila Majid. La chanson intitulée Nuansa Bening est dit d'être plus populaire lorsqu'elle est chantée par Vidi Aldiano. Bon, serviteur, écoutons maintenant la chanson suivante de Vidi Aldiano intitulée Status Falso. Bonne écoute.
Padamu, tapi dariku itu yang terbaik. Kau bukan pilihan, karena ku tak sedikit pun hasrat. Aku jalani cinta karena aku
sedikit pun hati bicara. Semoga selama ini kau tak tahu bahwa sesungguhnya aku tak mencinta terpaksa. Aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu setengah.
Deuxième antenne, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec un chanteur, Vidal Diano. Contrairement à la chanson précédente qui raconte la sincérité de l'amour, la chanson intitulée Status Palsu raconte l'amour qui ne vient pas du cœur sincère. Cet amour est faux, juste pour le statut. Cette chanson est l'une des chansons dans le premier album de Vidal Diano. Tout au long de sa carrière dans le monde du divertissement en Indonésie, Vidal Diano a produit plusieurs albums et singles. Vidal a également noté à avoir remporté un certain nombre de réalisations. À l'âge de 2 ans, 6 mois, il a remporté le 10e champion de chant du niveau de l'enfance, de sorte que depuis l'école primaire, il devient l'ambassadeur d'art de l'école. Lorsqu'il était adolescent, Vidi a commencé à apprendre l'instrument de musique, le violon. Quand il était à l'école secondaire, Vidi a rejoint le groupe et a remporté la première championnat dans le festival de la bande en 2007. Outre le succès dans le monde du divertissement, il a terminé ses études à l'université de Manchester en 2015. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Vidal Diano intitulées Cemburu Menguras Hati et Yang Kedua. Bonne écoute et au revoir.
Saat ku harap ada keajaiban dalam dirimu, indahnya masa lalu tergores semaraku, cemburu menguras hati. Kalau kini menyiksa diri, kembalilah kau kekasihku. Jangan putuskan, kau tinggalkan aku. Sekalipun sering ku menyakitimu, tapi hanya kaulah pengisi hatiku. Oh, oh, maafkan aku.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonésia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.